bipub.com. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Portrait d'entrepreneur by Bipub, le podcast qui met en lumière les femmes et les hommes qui se cachent derrière leur entreprise, proposé par bipub.com, l'annuaire des professionnels de la création et de la communication. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Salès, entrepreneur et architecte UX/UI, un expert en stratégie digitale et innovation, directeur associé de l'agence Mentalworks. Il est également consultant en stratégie digitale pour UTMSA, assure des cours en e-marketing en stratégie digitale au lycée Saint-Vincent de Senlis. Il est aussi président de l'association Oise Digital et n'en doutons pas, il a encore beaucoup d'autres cordes à son arc. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Alors,
merci de m'accueillir.
Est-ce que la présentation est correcte ou est-ce que il y a encore d'autres choses à ajouter?
Oui, c'est une bonne présentation. Elle est un peu dense. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de détailler tout à l'heure, mais globalement, c'est parfait.
Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va vous découvrir un petit peu. On va découvrir l'homme que vous êtes, surtout derrière l'entreprise, hein, donc derrière Mentalworks. Avant de passer sur cette phase-là, j'aimerais avoir une petite précision. C'est quoi en fait UX, UI pour nos auditeurs?
Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis conscient qu'en affichant ce terme, notamment sur mon profil LinkedIn, ça peut paraître un petit peu, obscur pour les non-initiés. Alors, pour répondre concrètement à votre question, le terme UX fait référence à tout le volet ergonomie dans le design et la conception de site internet ou d'applications métiers. Donc, c'est le côté ergonomie logicielle, hein. Et aussi l'ergonomie du poste de travail, mais qui n'a rien à voir, c'est des compétences différentes. Et le terme UI veut dire user interface. Ça fait référence à l'habillage graphique, en fait, au rendu esthétique, visuel, graphique, les typos, les couleurs, la charte graphique. Donc, toute l'identité visuelle qui vient chapeauter finalement ce fond. Et donc, c'est vraiment le côté pile et côté face d'une même équation. Donc, faut pouvoir maîtriser les deux. Je précise tout de même qu'il y a des profils métiers qui maîtrisent l'un ou l'autre, pas forcément les deux. Et moi, si j'affiche ce double emblème, c'est parce que ma formation d'origine, c'était l'ergonomie, justement, la partie UX, et que par passion, tout simplement, j'ai développé assez tôt un intérêt pour le design graphique et donc je suis venu compléter ça de manière non académique parce que j'ai pas de formation académique. Je suis ingénieur en informatique à la base, spécialisé en ergonomie. Mais comme je faisais de la BD quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été attiré par le dessin, le graphisme. Mais en fait, je suis venu compléter cette partie-là au fil du temps.
Donc, en fait, c'est une contraction de ce qu'on appelait avant un web designer, c'est bien ça?
Exactement. Le terme de web design, on va dire, englobe les deux, parce que dans les premiers âges du web, il y a encore 20 ans, on n'avait pas cette distinction, il n'y avait pas encore de formation sur la partie ergonomie spécifique, il n'y avait pas de profil particulier. Donc, en fait, on demandait à un graphiste de faire à la fois le fond et la forme, donc le côté ergonomique et le côté graphique. Et c'était un peu comme Monsieur Jourdain, hein, il pratiquait les deux sans le savoir, et ce n'est bien qu'après qu'on a distingué les deux métiers.
D'accord. Vous me parliez justement de votre passion dans votre jeunesse pour le dessin et la bande dessinée. Alors, c'était quoi un petit peu votre enfance, dites-moi?
Alors, mon enfance, elle a été quand même assez diversifiée, assez riche. Enfin, c'est toujours difficile de parler de soi parce que bon, on manque évidemment d'objectivité. Mais je peux considérer que j'ai eu de la chance parce que j'ai été d'abord à la campagne. J'ai fait plein d'expériences, beaucoup de choses pour découvrir la vie. On faisait des cabanes dans les arbres, on a fait des courses à la Mad Max avec des voitures en carton montées sur des skateboards. On a failli d'ailleurs aussi mettre le feu à la forêt, etc. Donc, tu as toute une partie avec mon frère où j'ai une grande complicité avec lui. C'est aussi pour ça que je suis, cofondateur de cette société, parce que j'ai trouvé un partenaire de confiance qui avec qui je m'entends très bien. Hein. Souvent, c'est pas toujours facile avec ses frères et ses sœurs, mais là, on se complète parfaitement. Donc, une enfance heureuse, des parents vraiment à l'écoute. Donc, vraiment, quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde et puis de pas avoir de problématiques pour expérimenter. Donc, ça, c'est parce que quand on est en confiance, on peut se permettre d'aller un peu plus loin et d'aller voilà, d'aller chercher les choses et de se faire une expérience la plus diversifiée possible. Donc globalement, tout est positif de ce côté-là.
Alors, ce qui est assez amusant, et vous allez comprendre un peu mieux ma question, c'est qu'on passe de cabane dans les arbres, de course de voiture Mad Max avec des voitures en carton sur skateboard, et d'une passion pour tout ce qui est BD et dessin. Et comment est-ce qu'on arrive par un parcours scolaire ou professionnel à se diriger effectivement vers l'UX et l'UI?
Alors, c'est également une très bonne question. Alors, je pense que j'étais assez curieux dès le plus jeune âge. Hein, je parlais de BD tout à l'heure, mais aussi je lisais beaucoup, je m'intéressais à plein de choses. Et à un moment donné, bah, dans le système éducatif français, comme dans tous les pays, il faut faire des choix. Et j'ai eu un peu de mal en fait à choisir entre la voie scientifique, parce que j'étais bon en sciences, mais j'étais aussi bon dans la partie artistique. Et à un moment donné, on est face à un choix et le système éducatif nous oblige à faire ce choix. Alors peut-être aussi pour faire plaisir à mes parents, j'ai préféré prendre la voie royale et je me suis retrouvé finalement ingénieur d'informatique, ce qui me plaisait. Hein, donc c'est pas un choix contraint. C'est quelque chose. Je m'intéressais à la technologie, aux sciences, etc. Mais à l'application technique des sciences. Donc je voulais pas faire que des maths parce que même si j'étais pas trop mauvais, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait, c'est comment utiliser les sciences dans le domaine concret de la vie, de la technologie. Et puis, du coup, j'ai laissé un petit peu de côté toute la partie artistique pour en faire plutôt une passion personnelle quand j'avais du temps, un hobby, voilà. Et donc, après mes études, parce que je suis passé par l'Université de Technologie de Compiègne, je suis né à Compiègne, donc du coup, voilà, j'en ai profité un petit peu. Après mes études, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur, un DESS et un DEA. Alors, j'ai un peu traîné parce que j'ai voulu échapper à l'armée. Je faisais partie des dernières générations. Mais finalement, je suis quand même parti quelques mois. Bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure.
Oui.
Mais donc, je reviens sur la question d'origine. Et à un moment donné, avec mon frère, on s'est dit, bah, créer une entreprise, ça faisait partie de nos ambitions. On avait toujours ça qui nous trottait dans notre tête. Et on s'est dit, si on ne le fait pas juste après notre diplôme, tant qu'on n'a pas encore de contraintes personnelles, de prêts immobiliers sur le dos, d'enfants, etc., bah, c'était le bon moment. Et en créant cette entreprise, j'ai pu enfin réassocier à la fois mon parcours scientifique d'ingénieur et en choisissant de développer la partie que j'avais laissée un peu de côté pendant mes études, qui était le côté design graphique, etc. Et je me suis aperçu qu'en étant UX/UI designer, tout en ayant de solides bases dans le domaine scientifique, bah, j'étais capable de théoriser et d'aller un peu plus loin et de creuser vraiment les choses et voilà et d'arriver à un niveau de conscience qui faisait que j'ai essayé de faire des choses intéressantes et en tout cas ça m'a éclaté et j'avais enfin réussi à joindre les deux bouts. Voilà.
Bah en fait, c'est une bonne chose puisque effectivement, oui, vous êtes réconcilié, on va dire quelque part, avec la partie artistique. Alors, j'aime pas le terme web design. On va rester sur UX UI hein, puisque c'est bien effectivement ce que vous faites aujourd'hui. La partie, on va dire, allez. Artistique avec la partie technique et technologique, il y a des éléments qui ont fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit en dehors du fait que ben effectivement vous n'aviez pas d'enfant, vous n'étiez pas encore marié, vous n'aviez pas de crédit sur le dos, qui vous ont dit bon allez non je vais pas travailler pour une boîte, je veux travailler pour moi. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir entrepreneur en fait?
Alors effectivement, alors quand on a un âge peu avancé, on est un peu piloté par l'instinct, je pense que plus que par la réflexion. Et à cet âge, avec mon frère, on avait déjà en fait compris qu'on pouvait se tromper, on pouvait faire des erreurs et que les conséquences seraient moins graves si on les faisait tôt qu'un peu plus tard. Voilà. Il faut dire aussi que le contexte familial aide parce que bah, on avait les parents qui étaient quand même pas très loin. Donc en cas de problème, si on se plantait dans notre aventure entrepreneuriale, on savait qu'on avait une base de repli stratégique. Hein, voilà. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc c'est déjà voilà. Faut bien comprendre que c'est une série de variables qui rend les choses possibles. Donc c'est pas toujours facile hein, de trouver la bonne trajectoire. Mais enfin, on savait que de toute manière, on pouvait y aller avec de la sérénité et que cette confiance de dire bah voilà, on peut expérimenter les choses sans risquer grand-chose, bah, c'est quelque chose qui donne des ailes. Et donc, on s'est dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure. Alors, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on était en 98. Moi, je venais de terminer mes études et mon frère également. Alors, lui, il était passé par l'INSET à Saint-Quentin, qui est l'université de Picardie Jules Verne. Et à ce moment-là, moi, comme j'avais fait, donc, je disais tout à l'heure, un DEA, j'étais déjà sur des sujets intéressants, sur la partie design interactif. Il y avait des questions philosophiques qui se posaient, je m'intéressais à tout ça, et j'aurais pu continuer sur une thèse. On m'avait proposé de continuer sur une thèse. Et donc, si j'avais accepté, je serais devenu maître de conférence, et j'aurais fait ma carrière en tant que prof à l'UTC, par exemple. Voilà. Mais ça me dérangeait parce que ce côté entrepreneur que j'avais retrouvé chez mes parents aussi, hein, eux-mêmes sont partis à l'étranger, ils étaient dans les travaux publics, ils ont fait des grands ouvrages d'art, ils nous ont donné envie en fait de construire des choses, je pense. Et donc avec mon frère, même si on les construisait pas avec des mètres cubes de béton ou des structures métalliques, on voulait les construire à notre niveau, c'est-à-dire dans le digital. C'était notre trip, hein. À l'époque, faut savoir que c'était le multimédia. À l'époque, on faisait des CD-ROM. On a découvert le Louvre ou le musée d'Orsay au travers de CD-ROM. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Si, si.
C'était notre génération. Et donc, on s'est dit, on va créer une agence digitale, à l'époque plutôt studio multimédia, pour justement faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire faire ces produits digitaux. Donc, on a lancé en fait l'opération. J'étais plutôt sur la partie graphique. Mon frère était plutôt sur la partie développement. Et à deux, on avait réuni les deux compétences pour produire un CD-ROM. On s'est fait connaître d'ailleurs en lançant le premier CD-ROM à l'époque de la Coupe du Monde de football, du Stade de France. Donc,
D'accord.
on a eu la chance de croiser, ouais, on a eu la chance de croiser la société qui avait filmé toute la construction. Et la Coupe du Monde s'approchait, et ils cherchaient un produit à donner à tous les visiteurs internationaux qui allaient venir, ou à toutes les entreprises qui allaient découvrir la Coupe du Monde, pour montrer ce bel objet architectural. Et donc, ils avaient des photos, des vidéos, mais ils n'avaient pas le savoir-faire pour en faire un produit interactif. Et donc, on a proposé nos services. On n'a rien demandé en argent, en fait, en prestation. On s'est proposé en disant, nous, on est capable de le faire. Bon, évidemment, faut payer quand même on va dire l'impression, hein, des CD-ROM. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Et donc, on a été voir le consortium Stade de France en leur proposant ce projet, en disant, voilà, d'un côté, nous, on peut faire un CD-ROM, de l'autre côté, on a un partenaire qui a toute la base, on va vous faire un produit. Ils n'avaient rien à perdre, ils n'avaient pas besoin de s'engager. Et donc, pendant 6 mois, on a travaillé comme des mules, quasiment 15 à 20 heures par jour. Alors, en plus, j'avais l'armée qui traînait derrière, donc je rentrais
Ouais.
tard en fin de journée. Donc, c'était compliqué, hein. Mais bon, à l'époque, on était vaillants. Et donc, on a réussi à livrer ce produit en temps et en heure. Ça nous a fait notre première référence. Et ça a lancé en fait la société. Et d'ailleurs, je me rappelle pour la petite histoire, le premier vrai premier client qui nous a payé, c'était la Banque Populaire Rive de Paris. Et on avait été les voir en tapant à leur porte parce qu'on savait qu'ils avaient besoin de relooker leur site internet. À l'époque, ça avait été fait en interne. Et on leur avait proposé en disant nos services, en disant voilà, notre dernière référence, c'est le CD-ROM du Stade de France, en omettant évidemment de dire que c'était aussi notre première. Mais c'est pas grave, ça a fonctionné, ils nous ont fait confiance. Et donc, on a également donc travaillé sur la refonte du site internet de cette banque. Et après, les références se sont enchaînées. Mais ça a duré 2 ans, puisque en 2000, on s'est aperçu qu'on avait déjà 2 salariés, on avait embauché 2 salariés. On s'est aperçu qu'il fallait passer à une autre échelle. Et donc, on a préféré fusionner avec une autre entreprise créée également par un ancien du TC, Jean-Noël Martin et sa femme, pour donner naissance donc à Mentalworks.
D'accord.
On a considéré que si on continuait comme ça, on était dans le même hôtel d'entreprise à Compiègne, et on allait avoir besoin chacun des compétences de l'autre. On se serait retrouvé en concurrence, et on s'est dit, voilà, en fusionnant donc 2 x 4 à 8, on allait tout de suite disposer d'une force de frappe, d'une certaine crédibilité pour aller chercher des projets et des clients plus ambitieux. Et c'est ce qui s'est passé, puisque, je fais un raccourci, mais on est monté de 8 à 25, et c'est ce qui a effectivement participer à l'aventure de Mental Works.
Alors vous me parlez beaucoup également de passage, on va dire, militaire, qui vous courait derrière avec le service militaire. Alors moi, je suis d'une génération qui a connu les disquettes 3 pouces et demi, 5 pouces et quart. Je ne sais pas si vous avez connu ça aussi.
Absolument, absolument.
Voilà,
absolument.
On travaillait encore sur des AS-400 ou des BS-2000, des grosses machines de guerre. L'armée, ça vous a apporté... vous avez fait votre service militaire ou pas déjà?
Alors, j'ai fait un bout de mon service militaire.
D'accord.
Alors, pourquoi? Parce que au moment où, après, je terminais tout juste, je faisais ma soutenance, je me rappelle très bien, j'étais à Compiègne, je faisais ma soutenance de mon DEA, et le soir même, je prenais mon balochon et je partais en train pour faire mon service militaire. Alors, après une période de quelques jours, je me suis retrouvé à la base aérienne de Creil.
Ouais.
En tant que scientifique du contingent dans l'armée de l'air. Alors, c'était super. C'est-à-dire que je faisais des choses intéressantes. Je travaillais sur des images satellites. Bon, je peux pas en dire trop parce que
non,
bon,
non.
À l'époque. Voilà, mais c'était des choses assez poussées qui exploitaient mes compétences en algorithmie, en reconnaissance d'images, etc. Je faisais du sport l'après-midi. On était servi au restaurant. Enfin, c'était vraiment la belle vie, hein, vraiment le Club Med. Donc, c'était très bien. Et donc, j'étais, moi, pas du tout contre pour faire mon service militaire, même si je voulais poursuivre mes études pour aller le plus loin possible. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je racontais tout à l'heure qu'on avait un peu peiné avec mon frère pour terminer le CD-ROM du Stade de France, eh bien, au bout de 3 mois, comme effectivement je me levais très tôt et j'arrivais très tard vers 17h, il restait que quelques heures de boulot et on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais y arriver. Donc, comme j'ai un esprit un petit peu, voilà, un peu audacieux, je me suis dit, allez, on n'a rien à perdre. J'ai contacté le député de ma circonscription de Compiègne. Je lui ai expliqué mon cas en disant, voilà, on a un projet d'entreprise, on s'est engagé sur un livrable et si on ne le fait pas, on risque de faire capoter la boîte. Enfin, voilà, on risque de... Voilà. Donc, il m'a aidé à monter un dossier. J'ai expliqué que j'étais un jeune ingénieur de l'UTC, machin, qui montait sa boîte, enfin, tout le soin. J'avais aussi écrit des articles de presse à l'époque. Hein. J'écrivais pour des journaux dans le domaine multimédia. Donc, voilà, j'avais déjà un petit peu d'expérience. Et puis, ce député a monté le dossier auprès du ministre de l'armée à l'époque, qui s'appelait Pierre Richard. Donc, pas l'acteur.
Mais non, pas l'acteur. Oui. C'est pas une blague, c'est sérieux.
Hein. C'est, voilà, donc vraiment le... Et puis, j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 semaines. Je me rappelle, mon responsable, mon N+1 à l'armée, qui était un colonel avec une personnalité très tranchée, ne croyait absolument pas au fait que je puisse être libéré, parce qu'à l'époque, comme on était la dernière année, la dernière tranche à faire l'armée, il fallait absolument faire 10 mois. C'était pas possible. Déjà 10 mois, c'était une remise par rapport aux 12 mois. Et au bout de 3 semaines, y a un courrier qui est arrivé dans son bureau. Et qui était en gros, je vous la fais courte, mais en gros, le Troufion Salès doit être libéré le jour même pour raisons exceptionnelles, etc. Et donc, j'ai quand même fait 4 mois au final de l'armée.
Ouais.
Donc, une bonne expérience. Mais ça m'a permis de me reconcentrer à 100% sur ce projet et de finir donc le CD-ROM dans les temps. Voilà.
Comme
donc,
quoi, il faut oser et être audacieux.
Il faut oser, absolument. Il faut oser... alors évidemment, il faut investir son temps en analysant un maximum pour éviter que ce soit du temps perdu, mais il faut y croire et il faut pas hésiter à se lancer, effectivement.
Il y a des personnes qui ont influencé votre parcours?
Alors principalement les clients. Et puis aussi, alors les clients, quand je dis clients, c'est pas simplement les clients de l'agence, même s'il y a une belle diversité en tant qu'entrepreneur, quand on est aux manettes d'une boîte. On a la chance, mais on a aussi, c'est une contrainte, hein, de pouvoir s'adapter un peu comme un caméléon et d'essayer de comprendre qui on a en face de nous pour répondre à ses besoins, l'accompagner au mieux. Donc là, tous mes clients en fait m'ont enrichi. Et puis il y a aussi un épisode que je conseille à tous les jeunes, mais certains le font évidemment. Je suis pas le premier. C'est de profiter de ces périodes estivales pour faire des petits boulots. Et donc avec mon frère, pendant 4 ans, l'été, on était embauché par une chaîne qui s'appelait Interdiscount à l'époque, qui était une chaîne qui vendait du matériel informatique, de l'audiovisuel, etc. Et comme on avait appris à monter nos PC tout seul, on en parlait tout à l'heure, hein,
oui.
Nous, à l'époque, c'était les Amstrad 464, après c'était les Commodore, les Atari 520ST, puis les premiers PC, hein, les 80-86, les 286, les 386, les Pentium.
Avec les deux couleurs et les 20 mégaoctets de disque dur qui étaient fantastique à l'époque.
Ah oui, je me rappelle. Ouais, tout à fait. Donc toute cette partie-là, on avait un peu sur le tas, un peu de manière empirique, appris à être à monter des PC, etc. Donc on nous avait embauchés comme vendeurs de PC. Et du coup, pendant 3-4 ans, on a forgé nos armes et on a compris ce qu'étaient les marges, les primes, les objectifs sur chiffre d'affaires, le relationnel client et tout l'argumentaire de vente. Et donc, en parallèle de nos études à l'école, même à l'université, qui était très académique, et ben on a appris toute cette facette qu'on n'apprend pas à l'école sur le terrain. Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui, avec un peu de recul, je pense que c'est l'association des deux qui nous a armés pour pouvoir justement développer l'entreprise.
Donc, vous avez connu les premiers PC bien lourds, bien encombrants, avec des écrans bien, bien énormes, avec très peu de disques durs, avec les disquettes souples, les petites disquettes dures, les bandes. Alors, je ne sais pas si vous avez connu les lecteurs à bandes ou les gros.
Les lecteurs à bandes, on les connaissait, mais nous, on est arrivé déjà à la génération disquette, hein, les disquettes 5 pouces 1 quart, puis après 3 pouces et demi.
Et l'arrivée du CD-ROM qui a tout changé aussi. Et la guerre entre DR-DOS et MS-DOS à l'époque qui permettait effectivement d'avancer très vite. Et très vite, on est passé du 80-86 au 88, 286, 386, 486, etc.
Voilà. Donc, vous avez aussi un bon, un bon background de technique.
Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai connu effectivement les gros environnements BS2000 entre autres. Voilà. Et j'étais développeur également informatique à une certaine époque. Il y a une évolution qui est énorme et qui est hyper rapide dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication, dans le domaine du site internet. Hein. Aujourd'hui, à l'arrivée de l'IA, vous voyez ça comment par rapport à votre entreprise ?
Alors l'IA, d'ailleurs, je donnais un cours hier au club des journalistes de presse, de l'AJT, pour éclairer un peu le sujet et leur donner des éléments de réflexion pour voir comment en profiter et l'exploiter au mieux dans leur pratique métier. Mais ça, c'est au travers de mes actions de consultant où je fais de la formation, parce que le sujet m'intéresse à titre personnel. Mais je l'utilise également à titre professionnel depuis plusieurs années, parce que en plus de la partie, architecte UX UI et responsable marketing, chef de projet commercial, enfin j'ai plusieurs casquettes à mon arc, je suis aussi en charge des crédits d'impôt recherche au sein de l'agence. Parce que comme toute la partie informatique, mathématiques, algorithmique m'intéresse, donc on a utilisé en fait l'IA pour monter de nombreux projets de CIR ou C2I, crédit d'impôt innovation, et donc je suis dedans tout le temps parce que chaque année il faut que je monte un dossier technique, hein, plusieurs centaines de pages qui explique les travaux de R&D qu'on a pu réaliser sur nos applications informatiques. Donc pour faire court, en fait l'IA c'est un potentiel à exploiter. Il faut aussi en cerner les limites. Et c'est ce que je regrette aujourd'hui un petit peu auprès du grand public, c'est que, avec par exemple l'avènement en novembre 2022 de ChatGPT, hein, qui a déferlé, en fait, qui est une sortie grand public de ces techniques qui maturaient depuis les années 50, les usages et les pratiques n'ont pas été cadrés. Hein, y a un manque de pédagogie. Mais quand on apprend véritablement comment ça marche, ce qu'il y a sous le moteur, eh bien, on peut vraiment en tirer un profit énorme et notamment gagner du temps. Et donc, les experts deviennent encore plus productifs. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est une aide. Hein, c'est des outils qui nous transcendent en quelque sorte, mais qui peuvent pas nous remplacer évidemment, parce qu'on est encore loin de ce qu'on appelle de l'IA forte. Hein, l'IA forte, c'est une IA qui est censée analyser, comprendre les concepts, manipuler le sens, alors que ChatGPT, je le dis en deux minutes, c'est absolument pas ça. C'est une séquence de mots qui est produite de manière statistique, probabiliste. Donc chaque mot qui d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que les phrases sont rédigées avec une certaine lenteur, en tout cas sur la dernière version, parce que en fait le modèle cherche les mots les plus probables à enchaîner. Voilà. Mais il n'y a pas de compréhension de sens. Mais par contre, ça peut fournir de très grande aide et faire gagner beaucoup de temps dans le traitement des contenus textes
Je pense à Mark Page entre autres, je sais pas si vous connaissez qui est quand même déjà beaucoup plus approfondi que ChatGPT où on peut rentrer un persona, on peut rentrer beaucoup de choses pour en retirer du texte. C'est quelque chose que vous allez vous intégrer déjà au niveau de vos développements en UX UI pour les clients.
Alors oui, alors Parce que, alors, faut bien savoir que chez Mentalworks, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a deux activités principales. On a une activité en tant qu'agence web où on crée des sites internet, on fait des applis mobiles, on fait du web marketing. On va dire que ce sont les métiers de base d'une agence web classique. Donc ça, on le fait depuis 2000. Et en 2009, 2019, pardon, 2019-2020, on s'est aperçu que les marges en tant qu'agence digitale, avec les salaires hein, des développeurs qui ont augmenté, avec la pression concurrentielle, il y a des boîtes qui font de la sous-traitance offshore à l'autre bout du monde. Donc, on a eu une pression sur nos marges qui nous a conduit à nous poser des questions. Et on s'est dit, si on continue comme ça, on risque d'avoir des problèmes. Donc, on a orienté, on a un peu pivoté pour intégrer une nouvelle activité métier, qui est celle d'éditeur d'applications. Donc, on a décidé de créer nos propres produits. On vend aujourd'hui sur étagère et avec plus de quasiment 20 ans d'expérience en travaillant sur mesure pour les autres, on a identifié les fonctionnalités, les produits qui répondaient au plus grand nombre. Donc, on a développé un intranet collaboratif qui s'est aujourd'hui vendu à plus de 30 entreprises. Alors, c'est des grosses boîtes, hein, c'est plutôt un intranet, il faut quand même avoir plusieurs centaines de collaborateurs. On a développé un CRM. Donc un outil de gestion de la relation client en français hein, et qui va devenir un ERP, donc un outil de pilotage, de planification d'activité. Et ces produits, aujourd'hui, sont alimentés, sont irrigués avec de l'IA parce que justement, les travaux menés dans le cadre de nos crédits d'impôt recherche nous ont permis, et merci l'État français, parce que grâce à l'État français, on a quand même eu un remboursement de 30% en gros de nos travaux de R&D. Hein. Il faut bien voir que ce n'est pas uniquement destiné aux grands groupes, c'est aussi à la portée des TPE-PME. Hein. Je le redis parce que quand j'en parle à des petites entreprises, ils pensent que le CIR, c'est réservé aux grosses boîtes. Pas du tout. Par contre, il faut faire les choses bien et de manière sérieuse, évidemment. Donc, eh ben, cette aide financière nous a permis de transmuter le temps de R&D dans nos produits. Et donc, on vend aujourd'hui un intranet notamment qui intègre un moteur, un agent conversationnel, qui vient puiser ces données dans les bases de connaissances de l'entreprise. Donc, plutôt qu'avoir un intranet, on va dire, d'ancienne génération où il faut aller naviguer dans les pages et trouver les bons documents, en fait, l'IA, permet d'accéder de manière très rapide à des contenus experts qui sont la propriété de l'entreprise.
D'accord. Donc effectivement, c'est un parcours, on va dire, un peu type fusée, quoi, puisqu'on part du dessin pour arriver à une entreprise aujourd'hui qui fait du développement R&D avec de l'IA. Aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur l'homme que vous êtes avant tout, enfin, sur vos objectifs personnels et professionnels, voilà, c'est vous voyez comment votre avenir en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionne?
Alors c'est compliqué justement de faire des choix parce que comme j'ai une pensée qui m'entraîne sur plein de sujets différents, je passe mon temps à investir du temps sur plein de sujets, mais je pense que c'est aussi ça fait partie de ma personnalité. Alors faut que j'arrive à la canaliser, hein, évidemment. Donc des projets, j'en ai plein. Le plus dur, c'est de choisir. Alors j'ai maintenant 50 ans, j'ai quand même trouver les moyens de sortir un peu la tête du guidon. Donc, comment je vois l'avenir? C'est simple. L'idée, c'est de continuer l'aventure Mentalworks pour la rendre autonome, c'est-à-dire faire en sorte que les cofondateurs de l'agence, dont je fais partie, mon frère Jean-Noël et les autres associés, puissent sortir du rouage de la machine pour que l'entreprise continue à se développer, parce que nous, on n'est plus non plus des perdreaux de l'année, hein, donc faut aussi prévoir la suite, et donner aussi la place aux collaborateurs, qui sont des piliers aujourd'hui qui ont permis de développer l'entreprise. Donc l'idée, c'est de s'effacer un petit peu, mais de monétiser quand même l'affaire, parce qu'au bout de, quand on a investi 20 ans de sa vie personnelle dans une entreprise, on a quand même envie de tirer un peu les marrons du feu. Donc l'idée, c'est de booster son développement, d'intéresser des investisseurs, pour pouvoir sortir, mais faire rentrer d'autres personnes. Puis donner les clés à nos collaborateurs, grâce à ces fameux piliers. Et grâce à cette distanciation, je vais pouvoir m'orienter sur des projets plus personnels, continuer à m'investir dans des startups, apporter mon conseil, lancer des projets perso. Alors, ça peut être écrire un bouquin justement sur l'UX/UI, hein, j'ai ça en tête depuis des années, lancer une chaîne YouTube qui donnera et qui. L'idée, c'est de transmettre ce que j'ai appris, parce que vous le savez comme moi, passé un certain âge, on a envie de transmettre. On a
Tout
envie
à
de,
fait.
et c'est pas, voilà, et ça, donc, c'est un travail aussi. Et puis, prendre un peu de temps, penser aussi à passer du temps avec mes enfants. Hein, j'en ai deux, donc ils sont en phase d'adolescence, et je m'aperçois que des fois, je sacrifie du temps que je pourrais pas récupérer. Donc, c'est des valeurs et des choses qui s'imposent à moi aujourd'hui. J'ai envie de, voilà,
Le temps,
de rééquilibrer un peu tout ça. Voilà.
le temps, le bien le plus précieux qu'on ait, voilà, sur
Oui.
cette terre. Et donc, en fait, vos passions, en fait, concrètement, c'est transmettre par différents moyens, par différents canaux. Peut-être pourquoi pas, tiens, une BD autour de l'UX, lui aussi, pour faire comprendre ça aux plus jeunes,
Par
puisque
exemple,
vous aimez le
absolument.
dessin.
Alors, par contre, je ne pratique plus depuis un moment, donc il faudrait que je m'y remette, mais pourquoi pas.
Ouais, encore un nouveau
Mais
challenge.
aider
Aider
de l'IA,
l'IA,
je peux
ouais.
arriver à faire des choses intéressantes,
Ouais,
effectivement.
c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA permet de faire quand même, de faire quand même pas mal de choses. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours des moments où on est obligé de s'adapter, où on a parfois des, c'est un petit peu comme une courbe sinusoïdale, hein, on a des hauts, on a des bas. Il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier dans vos réalisations avec l'entreprise?
Alors oui, c'est on va dire que c'est plutôt une cohorte de satisfaction. Le fait déjà d'avoir créé une entreprise qui aujourd'hui, enfin qui va fêter bientôt ses 25 ans. Pour moi, c'est déjà une performance parce que souvent on dit que la performance c'est la durée, hein, le fait de voilà, et ben c'est vrai parce que on a vu quand même beaucoup d'entrepreneurs voilà qui ont testé, qui ont pivoté, etc. Mais là, une agence digitale située à Compiègne de 20 collaborateurs qui est encore en vie et qui se développe au bout de 25 ans, bah pour moi, c'est ça la vraie performance. Et c'est finalement une aventure humaine aussi parce que on a pu accueillir et on a donné des clés en fait à des stagiaires, des alternants, à des collaborateurs qui sont venus chez nous, qui sont partis. Je pense qu'on a participé à l'écosystème local et notamment notre ancrage sur le territoire de Compiègne aujourd'hui devient plus en plus important. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait partie un peu d'une pierre de l'édifice. Autant au début, on n'en était pas vraiment conscient. Là, aujourd'hui, la dimension RSE, engagement pour l'entreprise, pour privilégier les prestataires de proximité, de pas faire appel à de la sous-traitance à l'autre bout de la planète, ce qu'on fait plus, eh ben ça fait partie d'une sorte d'hygiène entrepreneuriale et finalement pour moi c'est ça en fait la réussite aujourd'hui. C'est pas simplement la marge à la fin, c'est le fait d'être utile et puis d'apporter de la valeur tout simplement.
Alors, lors de la préparation de cet entretien, qui a été courte, hein, juste un peu avant de l'enregistrer, vous m'avez parlé également de votre engagement associatif. Quelques mots autour de ça?
Oui, alors ça fait partie du temps qu'il faut prendre. Justement. Alors au début, pour être tout à fait honnête, on est venu plutôt me chercher parce que que ce soit à l'UTC, je donne des cours à l'UTC, donc l'Université de Technologie de Compiègne. On a gardé évidemment des relations puisque j'en sors. Donc pour les ingénieurs, je donne des cours UX UI depuis maintenant 15 ans à l'UTC et depuis 8 ans, je donne des cours au lycée Saint-Vincent à Senlis pour les profils développement. Et au travers de ces cours, on s'est aperçu qu'on rencontrait aussi d'autres professionnels et que ça pouvait être intéressant de créer une espèce de communauté. Donc, j'ai décidé de consacrer un petit peu de temps à la vie associative. Donc, je suis rentré dans plusieurs clubs d'affaires du territoire, mais c'est au travers de West Digital où je me suis investi le plus, puisque aujourd'hui, là, je suis le président de cette association qui fédère une cinquantaine de prestataires et d'entreprises qui ont une activité dans le digital sur le territoire de l'Oise. Et le but, c'est d'animer cette communauté, de défendre évidemment le métier, valoriser le cursus, la formation, et puis d'apprendre à se connaître pour travailler ensemble. Parce que c'est ça le plus gros problème, en fait, dans tous les territoires, c'est que on voit les concurrents comme des prestataires à qui il faut s'opposer, mais en réalité, on est plus fort ensemble. Donc, le simple fait de intellectuellement d'ouvrir les portes et de dire tiens, on va apprendre, ok, on est concurrent a priori, mais on va creuser un peu les choses et on va s'apercevoir finalement qu'on n'est pas si concurrent que ça, on est plutôt complémentaire. C'est au travers du milieu associatif qu'on rend ça possible. Et aujourd'hui, on en mesure, on va dire, les résultats positifs parce que d'anciens concurrents sont devenus aujourd'hui des partenaires. Voyez.
D'accord. Et bon, c'est un parcours hyper inspirant. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, puisque bon, vous croisez pas mal de jeunes, donc de par l'enseignement, mais à travers des associations également. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui aujourd'hui aurait envie de devenir aussi entrepreneur? Ce serait quoi votre conseil?
Alors, mon conseil, c'est d'écouter sa petite voix intérieure et de faire confiance à cet instinct, finalement, sur lequel, quand on est jeune, on ne peut pas forcément mettre de mots. Mais je pense qu'on a tous un caractère, une personnalité, des atouts qu'il faut essayer le plus rapidement possible de les identifier. Et de pas forcément se faire écraser par ce que les autres attendent de vous, mais parce que vous pouvez faire, parce qu'on est le meilleur finalement dans ce qui nous rend curieux, ce qui nous passionne, et c'est ça ce moteur qui nous permet ensuite d'être bon. Voilà, donc ça c'est le premier conseil, c'est un peu, ça rejoint un peu le concept de l'ikigai japonais que certains peut-être connaissent, hein, où on fait à la croisée entre ce pourquoi on est bon naturellement, ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin et ce dont le monde peut nous payer finalement, hein, ce qui peut nous, voilà. Et à la croisée de tout ça, on trouve la vocation ou le voilà le la raison d'être finalement, hein. Et plus on s'intéresse à ce sujet tôt, plus on est en mesure d'être canalisé sur le bon chemin. Alors certes, on peut y arriver en faisant un jeu de billard à quatre bandes. Ça, c'est aussi tout à fait enrichissant, mais c'est quelque chose à pas négliger. Donc vraiment s'écouter, essayer de faire quelque chose qui nous plaît, et avec cette motivation permanente, on ne considère pas ça comme de l'énergie, comme du travail. On va finir par s'accomplir et devenir performant dans son domaine. Et on sera aligné avec à la fois ce qui on est et ce qui nous anime. Et c'est là où je pense, on peut réussir.
Et avant de terminer cet entretien, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Dites-moi, Olivier.
Alors, c'est une excellente question. Alors, oui, il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est justement, vous l'avez dit tout au début, en faisant ma présentation, moi-même, quand je regarde mon CV sur LinkedIn, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me dis, alors voilà, c'est un peu l'homme orchestre, hein, il fait plein de choses, il est à la fois voilà, web designer, enfin UX designer, je suis chef de produit, c'est-à-dire je conçois les produits, donc je suis product owner, je suis commercial, je suis chef de projet, je fais de la photo, je suis investisseur, enfin bref, bon, j'adore aussi les crypto-monnaies, les startups, enfin bref, bon. Je pense que du coup, en France, souvent on aime bien étiqueter en fait les gens et les mettre dans des petites cases parce que ça rassure en fait, parce qu'on sait voilà, un tel fait ça et voilà. Et donc, c'est plutôt une réflexion, c'est de dire que aujourd'hui, bah, les profils un peu polyvalents, je vais considérer que j'ai un profil polyvalent, je
Multipotentiel,
suis
quoi.
pas un expert dans tout, de manière humble, je le reconnais et j'ai. Et plus j'apprends de choses, plus je m'aperçois que j'ai un océan de choses que je ne connais pas devant moi. Et je peux m'y noyer d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je suis un peu boulimique, hein. J'apprends beaucoup tous les jours, plein de vidéos sur YouTube, de livres, enfin bref. Et du coup, ce type de profil peut avoir son intérêt dans cette société parce que finalement, on a besoin de prendre un peu de recul, on a besoin d'avoir une vision globale d'ensemble. Et finalement, les seniors de notre âge ont peut-être de beaux jours devant eux. Parce que je vois arriver en fait une société qui s'accélère, pour simplifier les choses, on cloisonne les compétences et les expertises. Et du coup, le fait d'avoir affaire à des gens qui ont un peu une vision, voilà, un peu plus globalisée, un peu plus de recul, bah, ça peut avoir son intérêt. Donc voilà, c'était pour dire que j'assume mon profil d'homme orchestre et je pense que c'est aussi devenu une force aujourd'hui.
Votre message de fin, en fait, c'est grosso modo, soyez qui vous êtes, soyez curieux de tout et n'hésitez pas à l'afficher. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Et je rajouterais, n'hésitez pas à vous tromper et à faire des erreurs, comme disait Nelson Mandela. Il disait effectivement, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc, et en France, contrairement à la culture anglo-saxonne, en fait, on a peur de l'échec parce que on a été éduqué dans ce sens-là où un entrepreneur qui fait faillite, etc., c'est très difficile. Bon, ben non. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, c'est là où on tire effectivement le plus d'enseignements. Alors évidemment, il faut analyser la raison de son échec, hein. Il ne faut pas rester au fond du trou, mais des fois, il faut se faire aider aussi, il faut avoir cette humilité de dire on ne peut pas y arriver tout seul, des fois on a besoin d'aller chercher et d'avoir une main qui se tend, et ça fait partie aussi de cette ouverture d'esprit, mais en multipliant les expériences, on ne peut que gagner. Donc c'est ça mon message.
Eh ben, c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter pour cette interview. Merci Olivier, en tout cas, pour ces nombreux conseils et puis d'avoir partagé avec nous votre parcours.
Merci Olivier.
Voilà, ben, si vous souhaitez de votre côté vous entrer en contact avec Olivier Salès de la société Mental Works, il n'y a rien de plus simple. Hein, toutes les infos et les liens se trouvent directement dans le descriptif de cet épisode. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement, bien évidemment, sur bipub.com, l'annuaire des professionnels de la création et de la communication. Et si vous êtes un prestataire et que vous souhaitez rejoindre le réseau incontournable des experts, c'est facile, il vous suffit de vous inscrire sur bipub.com et de vous laisser guider. Voilà, portrait d'entrepreneur qui est réalisé par bipub.com. On se donne rendez-vous pour un nouveau portrait d'entrepreneur et je tiens encore à remercier Olivier pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous Olivier.
Merci Olivier.
bipub.com.